Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Nous sommes en mode confiné, chacun chez soi. Alors je dis salut à toi, Eric.
Salut à toutes et à tous.
Salut à toi, Olivier.
Salut Marco, salut à tous.
On va revenir sur cette catastrophique défaite à Brest. Ouais, le tonnerre a grondé à Brest pour le compte de cette 11e journée de championnat au stade Francis Leblé. On va donc revenir longuement sur toute l'émission là-dessus. On passera des morceaux musicaux, évidemment. On passera de la aussi. Des questions, les questions d'Olivier, et puis on clôturera l'émission avec les coups de tête, parce que là, il y en a, et les coups de cœur. Bonne émission à vous.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
Pour le déplacement à Brest, Claude Puel a aligné le 11 suivant, disposé en 4-4-2. Dans les buts, le capitaine Moulin. En charnière centrale, Mukudi, associé à Colosier-Jacques. Sur les côtés, à gauche, Sissoko. À droite, Camara. Au milieu, à la récupération, le duo Gourna-Neyou. En position plus offensive, Youssouf et le revenant Boudebouze. Et enfin en attaque, Bouanga et Abi. Comme l'an passé, les Verts ont été balayés par les Brestois en première mi-temps. Clin d'œil du destin, c'est Honora qui a ouvert le score dès la 7e minute sur une frappe enroulée qui a nettoyé la lucarne de Moulin. À la 23e minute, Duverne a eu tout loisir de placer sa tête sur corner pour doubler la mise. Le tournant est intervenu à la demi-heure de jeu avec la réduction du score stéphanois signé Camara, qui au second poteau a prolongé une tête de Mukudi sur un coup franc botté par Boudebouze. Mais quasiment sur l'engagement, les Bretons ont ajouté un troisième but inscrit comme à l'entraînement sans opposition par Cardona sur un service d'Honora. Ils ont ensuite enfoncé le clou par Mounier, dont la tête consécutive à un centre côté gauche est allée mourir au pied du poteau de Moulin. 4-1 pour Brest à la pause. Ce sera le score final. Les Verts sans défense, totalement absents des débats, se sont fait corriger par un adversaire loin d'être un foot de guerre et qui n'avait jamais marqué 4 buts en première mi-temps de toute son histoire en Ligue 1. 7e défaite de rang pour la SS, qui égale le triste record de la saison 2008-2009 et s'enfonce dans la crise. Tous les voyants sont au rouge dans le Forez, où débarquera dimanche prochain une redoutable équipe lilloise. Quand s'arrêtera donc ce cauchemar? Tonnerre de Brest.
Merci Eric pour ce résumé concis. Et oui, donc on va revenir sur cette humiliation en terre bretonne avec les questions d'Olivier.
Ouais, une première question. Alors, je sais pas vous, hein, mais de mon côté, j'ai le Finistère amer. Hein, et comme l'ont titré les journalistes du Progrès, bien Saint-Étienne est en rade et resté en rade du côté de Brest. Et justement, je voulais vous demander si on a vraiment touché le fond samedi après-midi à Brest. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de manière globale?
Oui, on peut dire qu'on a touché le fond avec cette première période où la défense a été catastrophique et ça coûte cher, quoi. Ça coûte très très cher. On était resté sur une défaite à Lyon qui était quand même prometteuse, avec un bloc compact, un pressing efficace, une projection vers l'avant relativement rapide. Et voilà, mais c'était une petite lueur parmi les derniers matchs. Même si on revenait avec 0 points, mais l'entame de match et ces 45 premières minutes, ça a été un calvaire pour chaque supporter stéphanois.
Ouais, c'est un énorme coup sur la tête qu'ont reçu tous les supporters verts. Comme tu le disais, on avait repris espoir par rapport au derby. On avait une belle prestation, on méritait de revenir au minimum avec un match nul. Là, on pensait vraiment que Brest, enfin, je pensais personnellement que c'était le match pour se relancer et interrompre cette cruelle série. Et ben, pas du tout. Non seulement on a perdu, mais on s'est fait humilier. On a été mangé dans tous les compartiments du jeu. On n'a pas joué du tout en première période, comme l'an passé d'ailleurs. On a pris 3 l'an passé, 4 cette année. C'est hallucinant ce qui s'est passé, le manque de combativité de cette équipe, le manque d'envie. Non, c'est incroyable de passer à ce point au travers et c'est extrêmement inquiétant pour la suite.
Et contrairement à l'année dernière, on n'a pas du tout réagi face au but marqué par les Brestois. Enfin, on a eu la chance, c'est ce qui est peut-être inquiétant. Le plus inquiétant, c'est qu'on a eu la chance de revenir au score à la demi-heure de jeu à 2-1. Et malheureusement, 30 secondes après, on a repris peut-être le but le plus gaguesque Depuis que je regarde Saint-Étienne, franchement, j'ai rarement vu des buts avec un laxisme aussi important en défense. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a vraiment troupé là. Normalement, quand on revient au score, toute l'équipe se reprend, on est un peu plus solidaire. Ben là, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, c'est inquiétant au niveau de l'état d'esprit. C'est peut-être ça qui. Si on parle de l'état d'esprit et pas seulement des qualités de footballeur, au niveau dans les têtes, c'est peut-être, est-ce que comme moi, vous pensez que c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire le moral des troupes?
Bah, c'est pour ça que je parlais de
Non, non,
tournant
c'est
tout
pas
à
que le
l'heure.
moral.
Vas-y, Marco.
Ouais, je dis c'est pas que le moral.
Non, bien sûr,
C'est
bien
que.
sûr. Bien sûr, c'est pas que moral, mais quand tu reviens au score, tu vois, tu t'attends à ce qu'il y ait une petite étincelle derrière.
Ouais, bah oui, mais défensivement, on est nul, on est nul. Hein. Donc on se
C'est
fait
pour ça que
bouffer
je parlais.
partout.
C'est pour ça que je parlais de tournant tout à l'heure dans le résumé, dans le compte-rendu. Parce qu'effectivement, à la demi-heure, quand on en revient à 2-1, ben, on a espoir derrière, on peut revenir égaliser. Et puis pas du tout. C'est une faute professionnelle d'encaisser un but quasiment sur l'engagement. Tu parles du match de l'an passé, on perdait 3-0 à la mi-temps. Oui, en seconde mi-temps, on avait les ressources pour revenir à 3-2. Et même, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'était fait un petit peu voler parce qu'il y a eu le temps additionnel à la fin qui n'avait pas été accordé aux Stéphanois. Par rapport à ce qu'il aurait dû être. Mais là, il n'y a aucune capacité, aucune réaction, même si les entrants ont fait du bien en seconde période. Alors, oui, on a eu la possession de balle parce que les Brestois, en deuxième mi-temps, ils nous ont laissé la balle tranquillement, mais ils ont vu qu'on serait totalement improductif et totalement inoffensif.
Après Brest, ils m'ont bluffé parce que je m'attendais à une équipe brestoise tout à fait commune, comme une équipe d'Angers, tu vois, une équipe de Metz. Moi, je trouve que c'était une belle équipe. J'ai assisté à un très beau jeu de la part des Brestois. Alors, c'est sûr qu'on leur a facilité le travail, hein, mais vraiment, ils sont très intéressants et je comprends mieux qu'ils restaient sur un succès face à Lille 3 buts à 2. Je comprends mieux déjà le fait qu'ils aient battu Lille et qu'ils en aient inscrit 3 face à eux. Donc, ils ont une belle attaque, ils prennent des buts. Donc, il faut pas sous-estimer cette équipe. Équipe bretonne, même si nous on était en dessous de tout sur cette rencontre.
Ils avaient aussi battu Monaco avant, mais nous, on a laissé tellement de boulevard derrière, c'est incroyable.
Ouais, tu as raison, tu as raison Marco sur Brest, et en plus c'est une équipe qui je trouve a réussi son recrutement hein. Aussi que ce soit dans tous les compartiments du jeu au milieu de terrain. Vous avez le Montpellierain là qui a la récupération. Devant, tu parlais de Charbonnier la dernière fois, mais bon, il est rentré très tardivement. Les deux autres attaquants, plus
Joker.
Honora, pardon.
Je dis à Charbonnier, il a joué le rôle de Joker.
Oui,
Il n'était
tout à
pas
fait.
sur de départ,
Ouais,
mais
mais
ils ont du beau monde, regarde.
bien sûr. Et c'est des joueurs bon qui ont été recrutés. Alors c'est vrai qu'ils ont peut-être plus d'argent que Saint-Étienne à l'instant T pour recruter lors des deux derniers mercato. Mais c'est vrai que du coup, ça donne. Mais rien que sur le papier, cette équipe de Brest, elle est meilleure que. Tu te dis qu'elle est meilleure que Saint-Étienne. Hein. Y a pas. Enfin, c'est sûr que le score est vraiment lourd. Mais par contre, si tu regardes les deux équipes, tu te dis que finalement, il n'y a pas. Je ne dis pas que c'est normal, mais je dis qu'il n'y a pas à hurler au loup de voir cette équipe de Brest gagner, très très jeune équipe de Saint-Étienne.
Ouais, mais ce qui pose souci quand même, c'est qu'il y a deux anciens Stéphanois dans cette équipe, et le plus récent, c'est Honorat, qui nous plante un but magnifique,
Et une passe décisive.
et une passe décisive, et puis oui, et puis il a fait la misère à Camara sur son côté. Et voilà, il s'est régalé, et on retrouve en fin de compte l'Honorat qui jouait à Clermont, hein, tout simplement, hein, ce rôle de d'ailier. Et après, c'est un coup de nez, un pied de nez, pas un coup de nez. Dans les coups de tête et les coups de cœur et les coups de nez, non, c'est un pied de nez à Puel qui le faisait pas jouer, quoi. Donc bravo à Honorat. Moi, ça me dérange que ce soit des anciens verts à
On
chaque
a
fois
retrouvé
qui brillent face à nous.
l'honorat de Clermont, mais malheureusement, on a aussi retrouvé le Sissoko de Clermont.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais oui.
Non, mais tu as tout à fait raison. Après, voilà.
Non, c'est pas.
On connaît effectivement le potentiel d'honorat.
On n'arrive pas à prendre Mounier. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le mercato estival, Mounier a préféré aller à Brest plutôt qu'à Saint-Étienne, bizarrement. Mais de Brest, qui propose donc du spectacle, du jeu, bah, effectivement, tu peux lui donner que raison, quoi.
Il y a un autre Mounier qu'on avait fait signer, mais bon, il est parti longtemps.
Oui.
Exact.
Mieux vaut en rire.
Donc, on va dire bravo à cette équipe bretonne, Marco, ce qui permet de passer un premier
titre. Ouais, ils sont hospitaliers, les Bretons. Alors, ça sera avec le premier titre de l'entente Jean Floc et Grand Pamini, avec le titre « Bienvenue chez les Bretons ».
Ciel secours, Jean Floc, Grand Pamini représente…
Bienvenue en Bretagne.
BZH, zone de houle.
Aïe.
United States of America. Allez viens, on se casse, direction Far West. T'inquiète, ouf, t'attrape, bouffe ton Paris-Brest. Là-bas, c'est chez moi, Finistère, Terre Brest. Je vais te faire chauffer comme la Bresse.
Montparnasse, je prends le TGV, je me casse d'ici. Cap sur la Bretagne et son alcoolémie. Kersauzon, c'est mon pote, il résonne dans ta tête. J'entends le loup, le renard et la galette.
Rendez-vous chez Vévert dans son bar Clando. Un vrai repère de flibustiers et de poivreaux. Fais pas le pilier de comptoir, t'es trop red man. Éponge ton bide avec ce Queen. Amen.
On prend Manon en tournant dans la forêt de Brocéliande. C'est bout du monde, Coco, c'est pas Disneyland. J'ai plein de potes qui en sont revenus handicapés. L'armorique, je veux la boire et je l'aurai.
La Bretagne, ça nous gagne. Le ghetto à la campagne. Ici, c'est pas Gotha. Bienvenue où le soleil n'existe pas.
Je vais t'arroser de cidre, mets-toi à l'aise. On vient pas à Plougastel pour se taper des fraises. Ambiance, fest, nosière, mat, kenavo. Mec, tu vas finir dans le caniveau, Charclos.
Je suis un touriste ici, franchement ça me plaît trop. Viens, on va youtuber la basson de Clodo. Oublie ta crème solaire et prends ton ciré. Chapeau rond, les Bretons, viens me déménager.
C'est parti pour la soirée Miss Big Gooden. Les t-shirts sont mouillés au chouchen. Partage mes crêpes et toutes les filles font waouh. Waouh, 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 waouh.
Festesse, fest, nos. Moi je reste jusqu'à la fin. Ma nouvelle vie a un putain de goût de sarrasin. Kick à part c'est un père, c'est trop la bringue. T'inquiète que maintenant je suis un bigou dingue.
La Bretagne ça nous gagne. Le ghetto à la campagne. Ici c'est pour Gotha. Bienvenue où le soleil n'existe pas.
On était tous carbonisés, explosés, arrachés, fracassés, écorchés, décalqués, dépouillés, éclatés, cramés, bourrés, cassés, cuits, torchés, beurrés, chargés, saoulés, défaits, pétés, shootés, scotchés, perchés, flingués.
Viens, je te casse les dents dans le Morbihan. Je suis le Terminator des Côtes d'Armor. T'es mort et je t'enterre à Saint-Nazaire. Je te brise en deux à Saint-Brieuc.
Apéro, pinard, crompin, pâté et naf. Ouais, tu sais, le pâté de porc du mataf. Et on est comme des barbares devant l'alambic. T'as raison, Loïc, fais chauffer le bilic.
Poiscaille sur pan de pêche à 100 vieux crabe et la moule. Laisse-moi donc toucher ton pompon. Fripouille, on met un grillage et on se barre de la France. Kenavo, président, c'est l'indépendance.
Ce soir, prépare-toi pour ton contrôle bignou. T'inquiète, les flics ont 3 grammes d'avance sur nous. Ici c'est West Coast, mais c'est pas ailé. Ici au Monsalo et tiens la marée.
Ici on se roule des pelles, même entre frangins. Toutes les meufs exigent une faciale de mon crachin. La potion magique, j'ai bien fait de la finir. La pluie fait grandir mon zizi, menhir.
La Bretagne, ça nous gagne. Le ghetto à la campagne.
Bretagne. La Bretagne, c'est comme un fist dans l'Atlantique.
Qu'est-ce que tu baragouines là? T'as moyen de pick and tout le pépé? Hein? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Far West, Far West. West Coast représente BZH, j'appelle tous les Bretons. Révolution!
Tu prends le train direction Quimper, ça se passe bien. Ça se passe sans impair, ouais. Mais avec un impair. On s'est compris?
Aïe!
2012, garçon. Vers l'ouest. On va vers l'ouest.
C'était l'hospitalité bretonne avec Jean Floc et Grand Pamini avec le titre « Bienvenue chez les Bretons ». Retour dans l'émission Coup de tête, donc, avec cette défaite lourde à Brest lors de la 11e journée de championnat. On va essayer de savoir, de pointer ce qui ne va pas dans cette équipe stéphanoise et dans la tactique, la stratégie puelliste.
Voilà, et en général, on commence, tu viens de le dire, par une question sur les coups de puel. Et il y a à dire sur les choix de Claude Puel, notamment sur les latéraux. À la fin du match, les journalistes lui ont posé la question. Je vous livrerai tout à l'heure sa réponse, mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce que vous aussi, vous avez des choses à redire sur la stratégie de Claude Puel, ou bien vous incriminez plutôt les joueurs ?
Oui, ben, en ce qui concerne les latéraux, donc, c'est vrai qu'on aurait aimé voir Mathieu Debuchy, surtout quand on voit ce qu'il a apporté en seconde période. Donc, à partir du moment où il est dans le groupe, on estime qu'il est capable de débuter le match. Donc, c'est dommage de ne pas l'avoir vu d'entrée. Après, même si on peut comprendre que Camara a été reconduit, parce que vu le match qu'il avait fait à Lyon, on avait été les premiers à saluer sa performance. Après, surprise côté gauche avec Sissoko, qui ressort du chapeau de Claude Puel. Alors, il s'est expliqué en disant que Trauco revenait de sélection, ce qui est vrai aussi que quand il avait fait rejouer directement, il s'était reblessé. Trauco, donc, il a joué contre le Chili et l'Argentine récemment. Il estime également que Gabriel Silva n'est pas encore au point. Il a pu s'en apercevoir lors du match amical contre Grenoble. Et puis après, voilà, la surprise aussi, c'est le retour dans le groupe et en tant que titulaire de Riyad Boudbouz en lieu et place d'Aouchiche.
Oui, alors là, je voulais savoir s'il y avait des choix discutables, c'est-à-dire que où il se serait trompé.
Bah, Sissoko pour moi, parce qu'il n'y a pas le niveau tout simplement.
On est d'accord, hein. Et c'était déjà le cas lorsqu'il jouait au Puy-en-Velay. Il avait commencé titulaire, puis il était devenu petit à petit remplaçant. Alors, j'ai entendu une bonne blague sur Sissoko, Nelson Alpha Sissoko. Tu l'as entendu hier, Eric ?
C'est Nelson moins fort ?
Ouais, c'est ça. Plus je vois jouer, match après match, je trouve Nelson de moins en moins fort.
Vous trouvez ça drôle ? Bon, ouais. Moi, pour répondre à ta question, Olivier, moi, les changements incessants de Puel nuisent à l'entente dans l'équipe. À chaque match, depuis le début de l'année, il change son 11 de départ. Alors, c'est vrai que bon, il y a des blessés, il y en a qui sont suspendus. Mais pourquoi avoir titularisé Boudbouz alors que Aouchiche a joué le dernier match et il était plutôt pas mal sur la dernière prestation, elle était à l'extérieur. Pourquoi il met Boudbouz d'un coup alors qu'il n'en a pas voulu pendant plusieurs mois et là il arrive d'un coup? Alors qu'on lui donne sa chance à Boudbouz, on est bien d'accord, on l'a défendu ici, au moins qu'il essaye. Mais à ce moment-là, pourquoi à chaque fois changer? À chaque fois, tu as un 11 de départ qui est complètement différent. Comment veux-tu y arriver?
Alors là-dessus, justement, j'y pensais, tous les deux, vous parlez de Boudbouz. Franchement, on a bien vu que Boudbouz, il apportait pas grand-chose. Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Je suis désolé, depuis un an qu'il est arrivé au club, il a fait deux matchs, deux bons matchs. Le reste du temps, il est à ce niveau-là. Et encore, là, je trouve qu'il a été plutôt un des meilleurs Stéphanois. Mais bon, c'était pas difficile.
C'est pas sur Boudbouz, moi. C'est sur le fait qu'il laisse Aouchiche sur le banc. Après les Boudbouz, je suis bien d'accord, mais pourquoi il laisse Aouchiche sur le banc?
Les deux bons matchs que tu cites sont les deux seules vraies émotions qu'ont vécu les supporters l'an passé. Hein. Ils viennent des pieds de Boudbouz. Hein. Que ce soit le but de Berić dans le derby ou bien la qualification en finale de Coupe de France. Et après là, c'est quand même lui qui adresse la passe décisive malgré tout. Il a une qualité sur coup de pied arrêté qu'il a montré, même s'il n'a pas orchestré le jeu comme on aurait pu l'attendre effectivement, mais il faut rappeler qu'il n'a pas joué depuis 4 mois. Mais après, le but, il vient de son coup franc.
Hein. On est d'accord, hein. C'est exactement ce que je dis. Mais deux matchs sur, il y a 38 journées, plus les matchs de coupe, plus tout le reste, en une saison et demie. Mais après, le problème de nous autres observateurs, c'est qu'on regarde tous les matchs et qu'on décrypte tous les matchs. Alors, OK, j'étais le premier hyper heureux, c'est comme ça. Moi, je suis comme Claude Puel, je préfère les joueurs qui courent. Aouchiche est un joueur qui est très à l'aise avec le ballon, mais qui défend. Là, on a bien vu que Boudbouz, sur ce match-là, je ne sais pas si vous voyez le premier but ou le deuxième, je ne sais plus, mais... le latéral Camara, il a deux joueurs parce que justement Boudbouz ne revient pas. Et ça, c'est bien sûr qu'on peut dire il faut du spectacle, mais il faut aussi ne pas trop encaisser de but, hein, parce que quand il y a 4 ans à la mi-temps, après c'est sûr que c'est difficile.
Non, mais après, c'est surtout le manque de cohérence qu'il faut pointer. Je rejoins ce que disait Marco tout à l'heure, c'est que la composition n'arrête pas de changer. Et voilà, donc Boudbouz, on sait très bien qu'il n'en voulait pas. Il a essayé de le vendre jusqu'au bout, ça n'a pas marché, donc il le réintègre. Là, il redevient titulaire d'un coup, et Aouchiche retrouve sur le banc alors qu'il a pas démérité du tout. Donc c'est un choix assez surprenant, quoi. Donc à chaque fois, il y a un nouveau joueur qui apparaît. Jusqu'à présent, c'était un jeune. Là, c'est Boudbouz. Donc vous regardez toutes les compositions d'équipe. À chaque fois, titulaire, il y a eu un nouveau.
Alors, par contre, sur le, on peut peut-être parler des deux latéraux, que ce soit Camara d'un côté. Bon, là, il avait peut-être.
Là, il a pris bouillon.
Il avait un gros client. Et puis, on avait pointé ses problèmes de marquage. Hein, ce n'est pas son poste. Si on les prend un par un, cette défense, de toute façon, il n'y en a pas un qui joue, qui est capable de tenir la baraque. Entre. Alors.
Ah, bah oui.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi pointer du doigt ces matchs internationaux? Parce que Brest, par exemple, sont beaucoup moins concernés. Est-ce que ça, c'est un argument recevable? Parce que je sais que, comment il s'appelle, notre ami Moukoudi, il a dormi dans l'avion la veille de partir à Brest. Ce n'est pas l'idéal quand même pour préparer un match. Il a dormi dans l'aéroport même, je crois. Et ce n'est pas le seul. Il y a Bouanga, il y en a d'autres aussi. Il y a Trauco. Franchement, c'est cette saison-là qui est avec des trêves internationales qui se multiplient, c'est un peu au détriment de notre club, hein. Comme d'autres, hein. Il y a d'autres clubs qui pâtissent, mais on peut peut-être aussi, peut-être aussi pointer ça du doigt quand même.
Ouais, c'est Bouanga qui a dormi à l'aéroport, hein, en rentrant de Gambie. Ce n'est pas Moukoudi, mais bon, Moukoudi était aussi en sélection comme Trauco. Ouais, c'est vrai que ça a une incidence, mais bon, après, on peut pointer chaque joueur de la défense. Hein. Il y aurait des choses à dire.
Ils ont été nuls. Les cinq en défense, ça a été catastrophique. On a rarement vu ça. Ils entraient comme dans du beurre. Je vous rappelle qu'on a encaissé les 4 buts sur les 4 occasions brestoises.
4 tirs cadrés, 4 buts en première mi-temps.
Ouais, non, mais attends, c'est à un moment donné. On n'a pas le niveau de la Ligue 1, ça c'est sûr. Mais la défense, là, elle est niveau quoi, là ? C'est anciennement CFA2, quoi.
On est bien d'accord. Alors justement, pour enchaîner, on peut parler des coups de pied arrêtés, hein, puisque l'AS Saint-Etienne a un triste record en Ligue 1. C'est l'équipe qui encaisse le plus de buts sur coups de pied arrêtés. Plus d'un tiers des buts qu'elle a encaissés le sont sur soit des corners, soit des coups de franc indirects. Et ça, c'est quand même inquiétant, avec des joueurs qui s'entraînent tous les jours et qui ont même plusieurs entraîneurs pour travailler ce genre de situation.
7 buts sur coup de pied arrêté, sans compter les pénaltys. Donc c'est énorme. Hein. Et à contrario, on est l'équipe qui n'a jamais marqué de la tête.
Mais nous, par contre, on est inoffensif. Hein. Sur la défense, on a marqué ici, c'est vrai, hein, avec Camara qui vient s'arracher, Moukoudi, tout ça. Mais il faut dire que l'équipe de Brest aussi, elle est très friable. Elle a encaissé beaucoup de buts, et notamment sur coup de pied arrêté. Mais nous, on en avait déjà encaissé deux quand on a marqué le but.
C'est l'avant-dernière défense du championnat Brest, en compte. Mais nous, on a marqué 11 buts en 11 matchs. 11 journées, pardon. Donc,
ça vient d'où, ces coups de pied arrêtés, à votre avis? Pourquoi on prend autant de buts sur coups de pied arrêtés?
Déjà, pourquoi on prend autant de buts?
Oui, ça, ok. Ça, okay.
Pourquoi on prend autant de buts?
Sur ce match, on a pris l'eau. Hein. Ça, c'est sûr, les marquages et tout. Mais moi, si vous avez une réponse sur les coups de pied arrêtés en particulier…
C'est aussi parce qu'il n'y a pas de stabilité, donc pas d'automatisme entre les joueurs. Parce qu'après, on encaisse des coups de pied arrêtés de tout type, hein, des coups francs directs. À Lyon, on a vu une combinaison travaillée à l'entraînement. Voilà, il n'y a pas un stéréotype des buts encaissés, mais c'est vrai que c'est récurrent, quoi.
Ouais, il y a un dénominateur commun, hein, c'est toujours le même. Hein. Vous avez peut-être pas, ça ne va peut-être pas vous plaire, hein, mais c'est le poste de gardien. Hein. Bah, pour moi, il n'a vraiment pas le niveau. Hein. Et puis, il ne rassure pas sa défense. Hein.
Ouais, il ne se comporte pas en patron, hein, malgré son ancienneté et le brassard qu'il porte. Donc, 4 tirs cadrés, 4 buts. Je vous rappelle que l'an passé, je l'avais dit dans la précédente émission, donc c'était exactement les reproches qui avaient été adressés à Ruffier, qui avait été sorti de l'équipe et qui n'est jamais revenu. Et puis, en deuxième mi-temps, donc, il s'est totalement trouvé, je ne sais pas si vous avez encore l'occasion, hein, je pense que vous la voyez, une bourde énorme.
Hein. Ah oui.
Deuxième mi-temps.
Oui.
Mais par contre, aucun des buts, aucun des 4 buts ne lui est…
Imputable. Après, il reste figé quand même. Hein.
Tu trouves?
Ouais.
Pas moi, je ne suis pas d'accord là. Je ne suis pas d'accord, notamment sur le but sur corner. Le but sur corner, c'est Abby qui lâche son marquage. Ouais, d'accord, mais il est sur sa ligne. Ça vient directement sur lui. Il était bon sur sa ligne jusqu'à maintenant. Là, il doit. En plus, il lui tire dessus, quoi. Il lui tire dessus, il l'arrête pas, il la laisse passer. Et le second but,
le troisième
but qu'ils prennent, je crois que c'est le second but ou le troisième but. Le
troisième but.
Le troisième but, je suis désolé, ça passe à un mètre à côté, il ne fait pas l'effort pour plonger. C'est pas normal, comme il l'avait fait face à Montpellier. Pour moi, il est complètement à la rue. Il n'a pas le niveau. Et on n'a pas de gardien, on n'a pas de numéro 9, on n'a pas de défense. Donc, c'est direction
la
Ligue 2 et la Nationale.
On parlera de l'attaque et de ce que tu viens de dire. Alors, moi, je veux bien c'est vrai que je re-regarderai pour voir si vraiment il est statique. Mais si vous me parlez de coup de pied arrêté et d'un certain Stéphane Ruffier, là, déjà, je ne serais pas d'accord parce qu'on a pointé du doigt le fait qu'il sortait rarement. Alors, bien sûr, il tient plus de place dans le but, peut-être, au niveau de sa corpulence. Mais alors, sur les sorties, sur les corners notamment, il ne sort pas beaucoup, pas plus que… Il ne rassure pas plus que Moulin. Hein. Ça, par contre, ça, je m'en souviens très bien. Alors, ouais, justement… Bon,
sur le ratio, là, tu as lancé sur la comparaison avec Ruffier. Ouais, et je veux bien, mais bon, Ruffier, c'était un des meilleurs… gardien qu'on a eu à Saint-Étienne ces dernières années. Alors il a eu des passages à vide, mais quand même il a la stature d'un gardien qui a été international, et tu passes de là à quelqu'un qui était remplaçant au Clermont Foot. Tu vois, il était remplaçant au Clermont Foot, ils en voulaient pas. Et quand il a été prêté par Saint-Étienne, ils en voulaient pas en tant que numéro 1. Là, il joue le poste de gardien, et depuis, en fin de compte, on prend quand même plein de pions, quoi. Et il n'est pas étranger à ses stats, 19 buts en 10 matchs. C'est un record, 19 buts en 10 matchs. Donc, même Ruffier, avec une main en moins, à mon avis, avec ce qu'il nous a montré pendant une dizaine d'années, eh ben, il serait meilleur. Quoi. Ça paraît évident. Et là,
je ne suis pas d'accord. Tu peux mettre le meilleur.
On paye le management quasi militaire du senior Poel, du caporal.
Je ne suis absolument pas d'accord, Marco, parce que tu peux mettre Emmanuel Neuer samedi après-midi à Brest, tu peux mettre n'importe quel gardien que tu veux, il en prendra peut-être pas quatre, mais il prendra pas mal de buts. Et qu'est-ce que tu veux faire avec quand ta défense, c'est un joueur de niveau R1, Sissoko. C'est un gars qui ne met pas un pied devant l'autre depuis un an et demi. Je rappelle que Fofana est parti. Le seul qui a... quand ton défenseur, il n'est pas au marquage, tu peux bien mettre qui tu veux au gardien. Là, franchement, je vous trouve un peu dur sur cet aspect-là des choses. Et en plus, il a perdu le capitana. La seule chose qu'on pourrait discuter, c'est ça. Hein, je trouve qu'il a beaucoup moins d'emprise sur l'équipe depuis qu'il n'est plus capitaine. Enfin, là, il était peut-être à nouveau, je ne sais plus.
Si, il était capitaine.
Il était, mais là, à un moment, c'était Abouma. Enfin, bref. Bon. Je vois pas trop le…
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la fébrilité de Moulin. Les premières journées, il a plutôt tendance à rassurer sa défense. Là, je trouve quand même que… Tu vois, j'ai parlé de l'action, il passe totalement à travers. C'est assez symptomatique, je pense.
Alors, pour revenir à ce que disait Marco, il avait élargi le débat et il avait élargi sur la suite de la saison, voire même des prochaines saisons. Hein. Alors, le problème de Claude Puel, c'est qu'il lui reste trois années de contrat encore. Et certaines mauvaises langues voient l'avenir de Puel de cette manière-là, c'est-à-dire une descente en Ligue 2 cette année, une remontée l'année prochaine et la Ligue des Champions dans 3 ans. Si on écoute le discours de certains…
Déjà, si on descend en Ligue 2, on ne reviendra pas l'année suivante en Ligue 1. Ça, c'est incontournable à Saint-Étienne.
On est bien d'accord. Donc, est-ce que les Verts ont vont-ils définitivement jouer le maintien cette année sous les ordres de Claude Puel?
Avec la défense dont tu as cité tout à l'heure, tu ne peux que descendre. Après, il peut y avoir effectivement un sursaut, et on n'est qu'à la 11e journée de championnat, et il va y avoir un mercato hivernal où ils peuvent aller chercher 2-3 joueurs. Mais s'il reste comme ça, Puel… En titularisant certains donc, que tu viens de citer, pour moi, c'est direction les dernières places de ce classement de Ligue 1.
On est bien d'accord là-dessus, Marco, ça serait une catastrophe.
Moi, je pense que n'importe quel autre entraîneur de l'ASS aurait été évincé là, suite à ce match de Brest. Cette humiliation qui fait suite à 6 défaites. Donc, n'importe quel autre entraîneur. Alors, pas Claude Puel. Pourquoi ? Ben, parce qu'il a un contrat béton. Il est entraîneur, il est manager général, il est au directoire. Donc, il va falloir qu'on continue à fonctionner avec lui. C'est un entraîneur qui, malgré tout, a une carte de visite, même s'il n'a pas gagné grand-chose. Mais on connaît sa méthode. Donc, quand les dirigeants le prennent, on sait vers quoi on va. Donc, c'est la carte jaune à tout va. Alors, il y a des aspects négatifs. Hein. On l'a vu à Lille avec Marcelo Bielsa à l'époque. C'est Galtier qui a rattrapé le coup. Lille a failli descendre. Et l'année d'après, ben, ils sont construits. Donc, c'est un projet sur plusieurs années. Moi, je ne pense pas qu'on va descendre, mais on va jouer le maintien, oui. Je ne pense pas qu'on va descendre parce que, ben, comme l'an passé, il y avait deux équipes qui étaient très en dessous. C'était Amiens et Toulouse. Cette année, il semble que ce soit Strasbourg et Dijon. Donc, on va jouer la 17e place comme l'an passé. On a fini 17e quand le championnat s'est interrompu. Donc, c'est malheureux à dire, mais avec l'équipe actuelle, je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Et après, on espère, avec le Mercato, donc l'arrivée de, au moins de Saliba, pour solidifier la défense, en attaquant, et les choses pourraient changer.
On en parlera de l'attaque, parce qu'on a parlé beaucoup de la défense, on en parlera de l'attaque.
On n'a pas parlé de Colo en défense. Hein.
Oui, c'est vrai, un petit peu, mais…
On pourrait y revenir.
Oui, on pourrait y revenir. Ça, je suis sûr que tu ne manqueras pas dans les flops. Dans les flops. Justement, parlons-en des tops et des flops. Alors, les tops, ça sera peut-être rapide.
Les entrants. Debuchy, qui a montré que c'est un vrai taulier, un vrai patron. S'il y en a un dans cette équipe qui mérite d'avoir le brassard, c'est lui. Et malheureusement, il est très mal entouré. Traoko, pareil, qui a amené quand même… quelque chose quand il est rentré côté gauche, il a un peu solidifié la défense, il y a plus d'équilibre, je trouve. Et puis, même Nordin, que je trouve assez intéressant offensivement. Pour moi, c'est les trois seules personnes qui méritent d'être citées. Mais c'était trop tard, malheureusement.
Ah oui.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, surtout sur Debuchy. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Et d'ailleurs, Puel l'a dit, il a montré à tout le monde ce que c'était qu'un défenseur. Un défenseur. Et c'était un sacré coup de…
Oui, mais pourquoi le
même techniquement. Selon lui, il n'était pas totalement prêt. Il voulait le.
Il est prêt 45 minutes après.
Là-dessus, on est d'accord. Moi, je trouve que.
C'est ce qui est surprenant.
Il aurait dû le titulariser. Après,
toi, tu le mets dans ton effectif, toi, tu ne le mets pas. S'il est dans ton effectif, alors tu le fais jouer d'entrée. Et Traoko, c'est la même chose à la place de Sissoko.
S'il y a quelque chose à redire sur cette rencontre, c'est qu'il s'est trompé sur les deux latéraux. Et en plus, tu peux te dire, mais il met Boutbouz au début du match alors qu'il n'a pas joué depuis 4 mois, mais par contre, il ne met pas Debuchy alors que c'est un poste où on a besoin vraiment d'être rassuré.
C'est ça, logique. On aurait plus vu Debuchy titulaire et puis après Aouchiche en meneur de jeu et quitte à remplacer Aouchiche par Boutbouz, ça aurait été plus logique. On aurait plus compris ce choix-là, je pense. Et puis Debuchy, on a vu ses qualités techniques quand il est rentré aussi. Hein. Je parle pas qu'il
fait la combativité. Hein.
Par contre.
Ouais, je dis, il en fait des erreurs. Et ça coûte cher. On a la 7e défaite. On reçoit Lille dimanche prochain. C'est plus qu'inquiétant. Là. Donc, effectivement, alors, après, il a son statut d'entraîneur, manager. Et puis, il a la main mise sur le club. Moi, ça fout les jetons. Ça fout les jetons.
Alors, avant de parler des flops.
La dernière fois qu'on a fait une série. La dernière fois qu'on a fait la série de 7 défaites, rappelez-vous, l'entraîneur avait été débarqué, c'est Rousset, qui pourtant nous avait ramené en Coupe d'Europe. Après, Puel a déjà connu 7 défaites avec Nice. Et il avait réussi à maintenir l'équipe. Et puis après, l'année d'après, ça avait été beaucoup mieux. Donc, on espère que ce sera pareil.
Alors, puisque vous insistez, il faut quand même dire que quand on fait jouer des jeunes à l'AS Saint-Etienne, en général, c'est que ça ne va pas très, très bien. Hein. Dans l'histoire du club, si on regarde, quand les jeunes beaucoup de jeunes arrivent en équipe 1, souvent c'est quand même quand suite à une rétrogression en Ligue 2, suite à des problèmes financiers et autres. Bon, là c'est ce qui se passe, je suis désolé. Et donc le choix de Claude Puel, c'est finalement un choix, le meilleur des choix quand tu veux intégrer des jeunes.
Les jeunes sur cette rencontre, ils n'ont pas été à la rue comme certains plus anciens.
C'est le problème.
Charles Abbey,
Charles Abbey, oui, si tu pointes comme ça. Mais dans l'ensemble, Colo, il n'est pas jeune.
C'est ça, il n'y a pas beaucoup de cadres. Et c'est des cadres qui ont failli. Hein.
Ouais, y a ça. Y a... Et puis, le discours de Puel, il va bien avec les petits jeunes. Ce que je parlais tout à l'heure de management quasi militaire, ça passe avec les jeunes, c'est les jeunes. Mais avec les plus anciens, ça ne passe pas. C'est là que ça pose souci. Ouais. Et on l'a vu dans les clubs où il était passé.
Ah, c'est vrai qu'il y a... Vous évoquez la situation à Nice. C'est vrai que peut-être que Saint-Étienne, il y a plus d'attentes à Saint-Étienne qu'à Nice ou qu'à Lille, parce qu'en fait, il a connu aussi des périodes difficiles à Lille aussi au début. Mais c'est vrai que il a, en tout cas, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il fait pas la girouette. Et je vous rappelle quand même que la semaine dernière, on avait dit que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas peut-être faut pas te juger sur un match parce que sinon on va se contredire toute l'année. Moi, je garde la, toujours la même vision pour l'instant. J'ai des doutes, bien sûr, comme vous, mais je garde la même vision, c'est-à-dire que on est dans un club, on analyse les performances d'un club qui n'a plus un centime. Et donc que là aussi, hein, c'est comme dans les buts, hein, tu peux mettre n'importe quel entraîneur quand sur le papier. Dans ton vestiaire, tu as un gars qui rentre la veille du match, qui a dormi dans l'avion, des joueurs de la qualité de Nelson moins fort Sissoko, tu ne peux pas faire grand-chose. Hein. Donc moi, j'attends de voir que les progrès qu'il a pu montrer avec d'autres groupes jeunes arrivent. Et je vois pas qui on pourrait avoir de meilleur que Claude Puel dans la situation où on est, franchement.
Tu plaisantes, j'espère.
Non, je plaisante pas du tout.
Attends,
parce que en plus, ça colle aux valeurs stéphanoises d'une.
Ah oui, oui, cette défaite
non,
d'affilée.
Non,
cette défaite d'affilée.
Oui, mais Rousset, il a déjà perdu cette fois.
Il y a même Alain Michel de Grenoble. Il faisait mieux, oh.
On lui a pas laissé le temps.
On lui a pas laissé le temps.
De faire pire.
Et la girouette, il l'a fait tout. Chaque rencontre, il change de 11 de départ.
Non, il ne faudrait pas que nous, on fasse les girouettes. Parce que, à Nice et à Lille, il a fait fermer beaucoup de bouches. Hein. Donc, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne ressors pas des phrases qu'on a dit dans des émissions. Mais déjà, la semaine dernière, vous étiez contredit par rapport au match précédent. Vous avez dit…
Oui, c'était une lueur d'espoir, effectivement, et puis je le reconnais. Ils ont fait un match plein à Lyon avec justement un bloc compact, un pressing qui était plutôt pas mal, quoi. Et puis, ils allaient vite de l'avant. Et pourquoi tu passes du coq à l'âne de match en match? C'est pas normal. Mais si à chaque fois, ils changent son 11 de départ, c'est sûr, ça coince quelque part, quoi.
Pour non, ça que je disais, moi,
j'adhère pas du tout au discours de Puel depuis le début, hein, et depuis l'année dernière. Il bat le record quand même depuis cette année 2020. On a été l'équipe la plus nulle. C'est simple, hein, sur les 5 championnats, c'est l'équipe la plus nulle depuis janvier 2020. Oui. Janvier 2020, il y avait qui ? Il y avait Puel. Ouais. On est au mois de novembre.
On
c'est
est
la
d'accord.
plus nulle de toute l'histoire.
Mais c'est l'équipe qui a plus un
c'est lui qui a fait partir Berić, c'est lui qui a fait partir Honorat. Arrêtez un peu, sérieux.
Non, mais il les a fait partir parce qu'il n'y a plus de sous, tout simplement.
Si on n'avait plus de sous, on aurait eu des soucis avec la DNCG, ils nous auraient pointé du doigt. Arrêtez de dire qu'il n'y a plus de sous.
Et si, parce qu'ils ont vendu Honorat. C'est grâce à Honorat et à Fofana qu'il n'y a pas eu de soucis.
Ils nous l'auraient dit bien avant. Ça tombe bien avant le constat de la DNCG.
De toute façon, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans le club, hein, parce que Romeyer avait déclaré, d'ailleurs, Romeyer et Caillasson, on ne les entend plus du tout. Hein, et ça, je trouve ça inadmissible. Pas plus qu'on entend Xavier Tuilot, c'est pareil. Donc, il n'y a que Puel qui parle sur un ton monocorde. Bon, on peut dire ce qu'on veut de Puel, mais c'est le seul pour l'instant qui fait face à ses responsabilités, même s'il est très têtu et qu'il est prêt à mourir avec ses idées. Donc, le problème, c'est que Romeyer, il y a quelque temps, avait déclaré on a suffisamment d'argent, on n'a pas besoin de vendre ni Bouanga, ni Fofana. Et puis, on s'aperçoit qu'on est obligé de vendre Fofana et il n'y a toujours pas d'argent maintenant pour continuer à fonctionner. Alors, il y a des choses qui nous sont cachées.
Mais mourir pour ses idées ne prouve pas qu'elles soient bonnes.
Il y a un impondérable qui s'est greffé, c'est le Covid. Il ne faut pas oublier que ça, c'est venu quand même modifier complètement. Entre, je veux dire, Romeilly peut très bien dire ça il y a 6 mois ou 7 mois, mais entre-temps, il y a eu le Covid. Faut pas l'oublier.
Ah, mais c'est pas à 6 mois qu'il l'a dit, hein.
Ouais, mais enfin, c'était le mois de. C'était cet été, là. En pensant que le Covid était derrière nous, tu vois.
Ouais.
Alors que le Covid, il est pas derrière nous, hein, et que ça fait un sacré gouffre sur les dans un club surtout comme celui de Saint-Étienne.
Quand même
Enfin
l'impression qu'il
bon,
n'y a pas de cap.
ouais, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de une dernière fois peut-être de des leviers. Qu'est-ce qui reste au vert pour réagir, pour trouver une solution?
Le mercato. Mais bon, s'il n'y a pas d'argent.
Ben c'est un peu ça, hein. Cette semaine, il était question de Slimani pour
Ouais.
justement réveiller l'attaque stéphanoise. Mais alors, vu le prix, je ne sais pas qui a sorti ça, mais c'est
Suis pas
impossible.
sûr que ça corresponde bien à ce que veut Puel, parce que Slimani, c'est un peu du Mbaye Niang, c'est un joueur quand même assez caractériel. Non, c'est Saliba qui nous ferait le plus grand bien pour stabiliser la défense. Si vous pouvez être prêté, si vous êtes prêté par Arsenal.
Il y a Red Sauce aussi qui va revenir.
Ouais.
Hein, ça va enlever un des deux en charnière centrale, donc
Ouais.
ça peut être que positif.
Bah,
Puis
c'est
tu
vrai qu'à
vois,
Milan.
il y a deux joueurs qui vont rentrer, hein, Amouma et Kasri. C'est pour ça que je ne veux pas crier au loup. Je vous entends crier au loup aujourd'hui. Amouma et Kasri vont rentrer le week-end prochain.
Ben là, l'effectif sera au grand complet. Il n'y aura plus cette excuse-là.
N'y
Hein.
aura plus d'excuses.
C'est sûr.
Et Debuchy, franchement, en deuxième mi-temps, je sais pas, enfin, c'est plus la même équipe. Quand tu as une défense de Ligue 1 devant Moulin, ça change tout. Avec Debuchy d'un côté, Trauco de
Ben
l'autre,
ouais, mais il le laisse sur
ça.
le banc pendant 45 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire?
Et ouais, parce qu'en fait, il prépare l'année prochaine.
Ouais, 2048, ouais.
Et là-dessus, je t'accorde un point, Marco. Enfin, ce que je vais dire, ça va rajouter de l'eau à ton moulin. C'est-à-dire que il travaille sur le long terme, mais le moyen et le court terme, pour le supporter stéphanois que nous sommes, c'est important, le court terme et le moyen terme. Et ça, peut-être que Puel, il le voit moins que nous qui sommes supporters, qui regardons, qui scrutons chaque minute de chaque match. Mais pour lui, en fait, si tu veux, là, Alpha Sissoko, peut-être il dit, il va, dans son esprit, hein, il va avoir un déclic et ça va devenir un super latéral comme Masson ou je sais pas, tu vois.
T'es méchant, Olivier, parce que rajouter de l'eau à son moulin, il en a pris suffisamment d'eau.
Ouais,
Il a
c'est vrai,
écopé suffisamment.
c'est vrai.
On va peut-être écouter un deuxième et dernier titre, parce qu'on n'aura pas
Allez,
le temps de passer les trois.
allez.
On va passer monochrome du Brestois Yann Tiersen, avec la participation de Dominica, ça date de 98.
Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now, anyway. I've lost my face, my dignity, my look. Everything is gone. And I'm tired now. Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my own bicycle, you love. I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a white disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes, monochrome woes, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Sometimes I search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows and listen to people walking in the down street. So it's life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Ouais, et comme chaque semaine, on va vous présenter les enjeux de cette rencontre. Mais avant, un match historique joué face à Lille, mais à Saint-Étienne. Et on se replonge dans le passé, eh bien, on se replonge aussi en musique. Voilà, une petite introduction en musique. C'était Jean-Claude Borelli pour entamer cette séquence agenda.
Oui, retour sur le samedi 6 mai 95 pour le compte de la 35e journée de D1. S'il fallait un match pour symboliser cette piteuse saison, c'est bien ce match-là. Un match de la peur entre le 16e et le 18e. Les Verts font le plus difficile en menant 2-0. Le premier but inscrit par le regretté Bibiche sur un joli service de Morabchik, et puis Laurent Blanc, le capitaine, sur pénalty, transforme donc le 2-0. Zibierski, en deuxième période pour l'équipe lilloise, va donner de l'espoir à ses Lillois, et suite à un nouveau débordement de Titi Camara qui est fauché pour la deuxième fois dans la surface de réparation. C'est Laurent Blanc qui se charge d'inscrire le deuxième pénalty de la soirée. À la 72e minute de jeu, les Verts mènent 3-1. Même à 5 minutes de la fin, ils mènent toujours 3-1. Mais il y a eu un cafouillage devant les buts de Grégory Coupé. C'est Assa Dourian, le Lillois, qui inscrit à la 89e minute le deuxième but pour cette équipe nordiste. Et il n'en est rien puisque dans les dernières secondes, c'est Zibierski qui marque le deuxième but et qui égalise de la tête. Ça fait 3-0. Alors, pourquoi ce match-là? Parce que déjà, un, il m'a marqué, parce qu'il était très important. C'était un match qu'il fallait absolument pas perdre, qu'il fallait absolument gagner surtout, et on ne l'a pas fait. Ça rejoint bien la saison qu'on est en train de vivre, qui est assez piteuse. Il faut bien le souligner, et que ça s'est joué donc sur les derniers instants. On a fini lors de ce match-là, on a fini à la 18e place. La 18e place était synonyme de descente, mais cette année-là, Marseille, qui avait fini premier de Ligue 2, n'a pas pu monter puisque la DNCG a bloqué les Phocéens en Ligue 2 suite aux affaires marseillaises qu'on connaît dans les années 90. Et ils sont sauvés, les Verts, grâce aux Phocéens qui sont restés en Ligue 2. Voilà pour ce match historique de l'année 80, de la saison 94-95.
Ah, Eric ?
Oui ?
Sur l'agenda, tu as des choses à dire ?
Donc, Saint-Étienne-Lille, le dimanche à 21h à Geoffroy Guichard. Alors, les Lillois, c'est une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1 avec le PSG, avec une puissance offensive qu'on connaît. Hein. Il y a Zissi qui a remplacé une autre perle de l'an passé, Osimhen, Yilmaz, Bamba, Ikoné. Une chose qui pourrait compter également, c'est que jeudi, le LOSC reçoit le Milan. Et Lille n'a jamais gagné le match de championnat suivant une compétition européenne, où ils sont pourtant invaincus. Donc, Lille-Milan jeudi, ensuite ils viennent à Geoffroy-Guichard, et jeudi d'après, ils jouent à nouveau en Coupe d'Europe contre le Sparta Prague. Donc, ouais, on espère qu'il en sera de même, sachant qu'ils restent en championnat sur trois matchs sans victoire, même s'ils sont très bien classés.
Et Bamba qui va marquer.
Ouais, puis c'est un retour de Galtier à Geoffroy-Guichard. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Il est déjà revenu, mais.
Exactement.
C'est toujours particulier pour lui et, ouais, pour, et pour les Stéphanois.
Un très gros match qui attend les Verts en espérant qu'on ne batte pas ce très très triste record.
Ouais, alors si on se fie à ce qui s'est passé depuis le début de la saison, ce n'était pas le cas l'année dernière ou les années gassées. C'est-à-dire qu'on est plutôt fort avec les forts et faible avec les faibles. Chaque fois qu'on a joué contre Marseille, ça s'est plutôt bien passé. Contre Lyon, ça, on a su, on va dire, tenir notre rang. Faut espérer que ce soit pareil contre Lille. Alors moi, j'ai un peu peur de ces matchs en prime time, là, à 21h. Ça ne me laisse pas beaucoup de bons souvenirs. On devant les caméras de Canal+, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais les Verts, souvent, ils bafouillent leur football. C'est rare quand on a vécu de grandes soirées le dimanche soir.
Ouais, et puis à domicile, moi, ils n'arrivent pas à me convaincre, hein, les Verts, depuis le début de saison. Même s'ils l'ont porté au début, hein, début de la saison, ils ne m'ont jamais convaincu. Je les ai trouvés plus à leur aise en se déplaçant. Mais bon, samedi, on a vu ce que ça donnait. Je ne sais pas, on verra. Moi, à mon avis, la 8e défaite d'affilée, tourne les bras.
Ne sois pas défaitiste. Ouais. On va y arriver. Regarde, si on ne prend pas ses buts casquettes, enfin, ses buts de pupille, de minime, on arrive à en marquer un. Ça peut suffire, un but du bout du pied de Camara, et 1-0, moi, ça me suffirait.
On ne veut pas de match nul, hein. On veut que des victoires, non ?
Ah, bien sûr, on veut que des victoires, et ça ferait un bon bol d'air. Alors après, voilà, on sait que intégrer à Saint-Étienne le fait de jouer le maintien, c'est pas évident, mais je rappelle que pour se maintenir, il faut qu'il y en ait juste trois en dessous de nous. Alors ça sera certainement pas Lille, hein, qui sera en dessous de nous. Donc on reçoit un cador de la Ligue 1. Voilà, bien sûr qu'on va peut-être subir, mais. Moi, j'ai bon espoir qu'on puisse inverser la tendance. En tout cas, on cherche un match référence. Il faudra bien qu'il arrive à un moment ou à un autre, ce match référence. On pensait que c'était celui de Lyon, mais ce n'est pas celui de Lyon. Il faut dire que la défense était fortement amoindrie. On peut penser que le retour de Debuchy va stabiliser un peu la défense quand même. Donc, de l'espoir. C'est la couleur. Le vert, c'est la couleur de l'espoir.
Ce sera un joli clin d'œil pour Puel contre Lille.
En plus. C'est vrai que c'est son club avec Monaco, les deux clubs qui ont beaucoup compté pour lui. Bon, mais je vous propose qu'on passe au coup de cœur et au coup de tête.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Très rapide en ce qui me concerne. Du coup, je vais revenir sur le derby. Il y avait une information qui méritait d'être signalée. Donc, une initiative ingénieuse de la part d'une agence de communication stéphanoise, je ne sais pas si vous avez vu les images, qui a réalisé un coup de maître en projetant Aller les Verts sur la façade du Groupama Stadium juste avant le derby. Donc, ça méritait d'être signalé. Et l'homme du derby avait été Ivan Neyou. Donc, la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que le club a levé son option d'achat.
Exact. Juste puisque j'ai le même coup de cœur, je me permets d'en parler. Oui, en effet, Ivan Neyou, il ne fallait pas trop traîner, ne serait-ce que pour lui signaler qu'on n'allait pas attendre la fin de la saison comme on le fait certaines années, et puis le joueur file à l'anglaise, comme ça a été le cas au début de saison. Donc, il fallait cadenasser son contrat, ce qui a été fait, donc c'est plutôt bien. Voilà pour mon coup de cœur, ainsi que Didier Roustan qui a sorti un cinquième podcast sur l'année 1975. Alors, d'une, c'est mon année de naissance, mais de deux, les Verts commencent à faire parler d'eux en Europe. Donc je vous conseille d'aller jeter une oreille sur ce podcast de Didier Roustan.
Très bonne année, cette année 75.
Exact.
Coup de cœur, j'ai bien aimé le but de Cabella avec Krasnodar en championnat.
Ah, bah, bien sûr.
J'ai été surpris qu'il y avait du public. Je ne savais pas qu'en Russie, il y avait le public qui était autorisé. Mais ouais, un joli but, une fois de plus, de Cabella, qui nous manque, évidemment.
Ça, tu peux le dire.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Alors, coup de tête, évidemment, pour la nouvelle humiliation subie ce week-end à Brest, la 7e de suite, record égalé et peut-être malheureusement battu dimanche. Des dirigeants mutiques, un entraîneur qui tâtonne toujours autant, une équipe aux abois qui laisse des boulevards à l'adversaire, des joueurs qui ne se sentent concernés que lors des grands matchs qu'ils perdent tout de même et qui ne font en rien honneur au maillot vert. D'ailleurs, c'est en blanc qu'ils ont joué à Brest et c'était mieux comme ça. Et puis des supporters qui ne peuvent vivre leur passion que par procuration, qui ont toutes les peines du monde à suivre les matchs en streaming, qui souffrent, qui subissent humiliation et raillerie et qui voient leur club s'enfoncer inexorablement dans les profondeurs du classement. Quelle année 2020 pourrie, vivement qu'elle se termine en espérant que 2021 ne soit pas pire.
De mon côté, je te laisserai terminer, Marco. Je confirme, les joueurs qui choisissent leur match, ça ressemble quand même à ça. Donc, c'est mon coup de tête. Et parmi eux, je mention particulière à Youssouf, je l'ai dit, je le trouve vraiment emprunté, Roland. Et Charles Abi avec une stat qui tue, je m'étais promis de la donner, je ne l'ai pas donnée. Charles Abi, c'est quand même 893 minutes titulaire hein, sur le terrain, sans le moindre but et sans la moindre passe décisive. Ça commence à faire beaucoup. Vivement le mercato d'hiver et on l'espère une bonne pioche à Saint-Etienne sur le poste d'attaquant.
Le retour de Söderlund.
À propos, justement, je n'avais pas noté, mais ça va être un de mes coups de tête. Sur la deuxième période, il y a eu 7 centres qui sont passés dans la surface de réparation, notamment dans les 6 mètres, il y a eu 4 centres et il n'y avait pas eu un avant-centre. Je ne dis pas un avant-centre qui était là au bon moment. Tant qu'on n'aura pas de numéro 9, tant qu'on n'aura pas de vrai gardien, tant qu'on n'aura pas de défense, on n'y arrivera jamais. Et une fois de plus, et je reviens sur l'humiliation, parce que là, on peut parler d'humiliation et de record. Je vous ai parlé tout à l'heure des 19 buts en 10 matchs. C'est un record. Donc oui, c'est la crise évidente et c'est un marasme vert, malheureusement. Et j'aime pas du tout, donc je ne suis pas du tout le discours de Puel. Et le discours de Puel avant le match, et là, même pour le match contre Lille, il dit le match de Lille est primordial et celui de Brest n'est pas primordial. Sérieux, il y a des baffes qui se perdent. Voilà.
11 matchs partout.
Et pas jouer, hein ?
11 matchs.
Ouais, 11 matchs. Et il fait une déclaration avant, quelques jours avant. Il aimerait que son équipe, en fin de compte, ait toujours l'envie de jouer correctement. Et il demande de ne pas jouer comme des bourrins. Ben, des fois, on se demande, quoi. Moi, je me pose la question. Hein, parce que moi, je me souviens du kick and rush des années 80 en Angleterre. Et ben, croyez-moi, et ben, ils ramenaient des points, les Anglais. Je parle de Liverpool avec un super avant-centre et pourtant il n'y avait pas grand-chose qui se passait au milieu de terrain et ils gagnaient des matchs. Donc peut-être se poser des vraies questions parce que là il est urgent d'engranger les points.
Marco, tu te consoleras avec le Liverpool Leicester avec.
Non, j'ai pas. Oui, je reviens aussi sur le streaming parce que Eric en a parlé. C'est la croix et la bannière pour assister au match des.
Énormément.
Et c'est très 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 pénible pour les supporters des Verts. Et je suis pas le seul. Et je sais qu'il y en a qui regardent plus. Ils regardent que les résumés. C'est d'une tristesse sans nom. C'est vraiment, ouais, j'espère que l'année 2021, je dis comme Eric, il a tout dit, Eric. Bravo à toi. Sera bien meilleur que l'année 2020. Allez, sur ce, allez les Verts.
Bonne soirée. On se quitte avec le jingle. On vous souhaite une bonne semaine. On sera là lundi. On sera là lundi prochain. Bonne semaine. Et encore une fois, allez les Verts.